La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
À Hong Kong, les affrontements entre manifestants pro-démocratie et forces de l'ordre n'ont plus connu de trêve depuis 3 jours complets.
Et il y a clairement eu un basculement là-bas. Après déjà 8 mois de mobilisation, on semble bien passer à une phase d'insurrection permanente du côté des protestataires, dont l'état d'esprit est résumé sans phare par un reportage du site américain The Atlantic. Depuis mars, rien de ce qu'a pu tenter Pékin pour les arrêter n'a fonctionné, ni le retrait de la loi sur l'extradition, ni la répression policière, ni l'interdiction du port de masque sur la voie publique. Désormais, ces jeunes Hongkongais ne sont plus mus par l'espoir, écrit Zeynep Tufekci, mais par l'envie d'en découdre, à défaut de toute autre issue possible. Car en face, poursuit l'universitaire américaine qui est présente sur place, le pouvoir local de Hong Kong, appuyé par Pékin, fait ce que toute autorité obsédée par son propre pouvoir bafoué ferait, à savoir se résoudre au pourrissement du conflit comme seule issue possible là aussi. Nous en sommes donc là, depuis lundi, journée noire parmi toutes les précédentes, où l'on a vu circuler des images de policiers hongkongais tirant à bout portant sur un étudiant désarmé ou fonçant à moto sur des groupes de manifestants. « Nous sommes en guerre », disent ces mêmes manifestants au Washington Post, dont la reporter Shibani Matani a suivi tout particulièrement 6 jeunes Hongkongais, un groupe d'amis passés experts en confection de cocktails Molotov. Ce qui intéresse la journaliste, c'est que ces 6-là ne sont pas des étudiants, mais des cols blancs avec des emplois stables et plutôt enviables dans les tours de bureaux de la métropole. Ils expliquent avoir rejoint la contestation à force d'attachement aux idées démocratiques, à commencer par cette idée simple de pouvoir élire eux-mêmes ceux qui les dirigent, et à force d'indignation face à l'ampleur des violences policières.
Et depuis 3 jours, Hong Kong est donc paralysé par les opérations de blocage des transports publics et par les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. La situation est particulièrement critique dans les campus de la ville, Camille.
Mais des campus où, rapporte le South China Morning Post, plus qu'ailleurs encore, les pro-démocraties sont résolus, et ils le disent, à mettre le pouvoir pro-Pékin à genoux. Depuis 72 heures, c'est donc cocktail Molotov et pavé contre gaz lacrymogène, LBD et canon à eau. Les blessés se comptent par centaines et la violence s'exprime aussi de plus en plus entre les étudiants hongkongais mobilisés et ceux venus de Chine continentale. D'ailleurs, une centaine d'entre eux, par mesure de sécurité, a été renvoyée sur le continent dans des bus spécialement affrétés par le pouvoir central ce matin. Un pouvoir qui prend la mesure de la radicalisation en cours et qui y prend aussi sa part. Pour preuve, toujours dans le South China Morning Post, cette information sur un nouveau dispositif anti-émeute qui va être mis en place cette semaine par les autorités locales. Une nouvelle unité choc de environ 80 hommes recrutés dans des équipes d'intervention en prison, des équipes connues pour leur méthode expéditive quand il s'agit de mater un début de mutinerie. Avec ou sans eux, les batailles rangées à travers Hong Kong achèvent de mettre la ville asiatique au bord de l'effondrement complet. Pour le quotidien d'État chinois The Global Times, le constat de radicalisation est le même, mais avec forcément un autre point de vue très tranché. On y lit que la violence décomplexée des émeutes à Hong Kong ces 3 derniers jours prouve à quel point les manifestants sont entrés dans un stade, je cite, de folie terminale.
Et direction à présent la Russie, où la presse démêle les fils d'un meurtre particulièrement sordide, Camille.
Oui, pour être précis, le clinquant s'y mêle à l'atroce, et c'est ça qui rend ce fait divers si révélateur. On parle donc ici d'un historien internationalement connu, Oleg Sokolov, en charge de la chaire d'histoire à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Il a été arrêté samedi matin après avoir été sauvé de la noyade dans une rivière par des secouristes. Dans son sac, nous raconte le site d'information pétersbourgeois Soroksiem News, cité par Courrier International, dans son sac, donc, on a retrouvé 2 bras de femme découpés à la scie. En garde à vue, Sokolov, 63 ans, a rapidement reconnu que ses membres étaient ceux de sa compagne, une de ses étudiantes âgée de 24 ans. Il a ensuite reconnu l'avoir tué, selon lui, pendant une dispute conjugale, et puis d'avoir tenté de faire disparaître le corps en le démembrant et en le noyant, en noyant les pièces dans la rivière. C'est là qu'il a donc manqué de se noyer lui-même et qu'il a pu être arrêté. Tous ces détails remplissent les journaux russes depuis ce week-end. On s'y passionne forcément pour le portrait du vieux mandarin flamboyant devenu monstrueux assassin, car Oleg Sokolov n'est pas n'importe qui, selon le portrait qu'en dresse la Gazeta. Il est un génie obsédé, dévoré, nous dit-on, par sa passion pour l'histoire de Napoléon Ier. C'est d'elle qu'il tire ses lettres de noblesse dans le milieu universitaire, mais aussi politique, puisqu'il est reconnu comme l'un des premiers à avoir lancé la mode des reconstitutions historiques de batailles napoléoniennes en costume. Ces manifestations lui ont valu de solides amitiés parmi les hommes puissant de Russie et au-delà. Oleg Sokolov est d'ailleurs très lié, Napoléon oblige, à la France. C'est la Gazeta qui nous rappelle toujours que Jacques Chirac lui-même a remis à l'historien russe en 2003 la Légion d'honneur française. Sokolov a été professeur invité à la Sorbonne. Il siégeait même jusqu'à cette affaire au sein du conseil scientifique de l'école privée de sciences politiques lancée à Lyon par Marion Maréchal Le Pen. La presse russe, depuis samedi, n'utilise pas le mot de féminicide, comme nous le ferions ici, pour décrire le meurtre de sa victime Anastasia Yeshchenko. Elle y préfère de gros titres plus complaisants, faciles, comme celui d'Argumenti et Facti, qui explique que Napoléon a avoué le meurtre de sa Joséphine. Mais il y a tout de même, avec les jours qui passent et les langues qui se délient, quelque chose d'une prise de conscience qui s'ébauche sur les violences conjugales, qui sont un problème massif en Russie, et sur l'emprise que peut avoir un vieux mâle tout puissant dans une institution, l'université russe, qui selon le site d'info Medusa, avait connaissance depuis des années des relations que Sokolov entretenait avec plusieurs de ses étudiantes, pour ne pas parler de comportements de prédateurs sexuels ou de tyrans cruels, tels que les décrit l'Agence nationale d'information RIA. L'université de Saint-Pétersbourg se défend aujourd'hui en expliquant qu'aucune jeune femme n'a jamais porté plainte contre l'historien. Pas sûr que cela suffise à calmer les critiques qui n'en finissent pas de monter, et c'est sans précédent dans le milieu universitaire et dans la société russe.
Merci Camille Magnard.